France Inter.
Bonjour, sous emprise, notre série continue, soyez les bienvenus. Je suis Julia Foyce et je vous propose d'entendre cette fois l'histoire d'un petit garçon qui voulait si bien faire et d'une mère qui ne parvenait pas à l'être. Samuel Doc raconte cette filiation toxique, cet enfant thérapeute qu'on lui a demandé d'être. Sous emprise, épisode 3. Je crois qu'on peut pas sauver ses parents, mais qu'on peut se réparer soi, on va se dire, c'est déjà ça. Je crois qu'on n'aime pas forcément sa mère, qu'on n'aime pas toujours ses enfants, ça pique un peu, mais c'est comme ça. Je crois pas à l'instinct maternel, je crois que le lien, ça se construit, parfois ça fait des étincelles, et puis parfois ça se détruit. On fait ce qu'on peut, on fait de notre mieux, avec ce qu'on a dans les bagages, on se trimballe son héritage, mais je crois qu'on peut s'en délester un jour, voyager léger. Ça veut pas dire enfin s'aimer, ça s'appelle faire la paix, je crois. Je crois qu'il faut des générations pour briser une malédiction. Je crois au pouvoir de la fiction, à celui de l'imagination. Et mot à mot, une pensée, le pouvoir de tout transformer. Rien ne se perd, rien ne se crée. Et ce qui vaut pour les atomes, ça marche aussi pour l'état d'âme. Viens, on se raconte une autre histoire. Ou bien, au moins, d'ici le grand soir, on essaye de changer la fin. Oh ouais, allez, ce serait bien. Je crois qu'on peut niquer la mort, la plier et la démembrer. Lui faire sa race, y croire très fort. Sinon, je sais pas, moi, tu me dis à quoi ça sert la vie.
France Inter. En marge.
There's ice in my water, and when I drink, it cuts my tongue. There's glass on the playground, it cuts my skin when I run. And from the dark into the light, I saw a stone burst into life. And in the corner of your eye, I saw a dream that never dies. Speak to me, speak to me. With love in your words, make for me, make for me.
Aïe, 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 Samuel Doc, je vais vous arracher à votre rêverie. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. C'est vous qui nous embarquez ce soir dans le soft univers d'Aurora, qu'on entend là une chanson sur l'hostilité du monde et sur comment l'apprivoiser, c'est ça? C'est comme ça que vous l'entendez cette chanson-là?
Oui, je crois qu'on a tous une chanson dans la peau, et moi c'est celle-ci. Elle parle de ce ver qui lui égratigne les pieds, la bouche lorsqu'elle boit un verre d'eau glacée, et elle parle des mots qui font défaut, les mots que moi j'ai beaucoup attendus toute ma vie, les mots de mon père, les mots de ma mère, un abîme à habiter, et les mots que j'ai essayer de trouver, de constituer pour moi et d'offrir à mes patients plus tard et à mes lecteurs. Donc, merci beaucoup pour ce choix en introduction.
Vous êtes psychologue, psychanalyste, écrivain. Vous publiez cette année un récit, roman largement autobiographique, L'enfant thérapeute. C'est quoi un enfant thérapeute?
Un enfant thérapeute, c'est un enfant maudit. Et j'ai ressenti une vive émotion en écoutant votre introduction tout à l'heure parce que vous dites qu'il faut des générations pour briser une malédiction. Et c'est le rejeton de ces malédictions hantées, diaboliques. C'est un enfant qui est placé à la position de parent et de soignant par son propre père ou sa propre mère, qui attend de ce petit bout de chou, qu'il le répare, qu'il lui apporte l'écoute, les mots qu'il n'a pas eu lui-même lorsqu'il était enfant. Bien sûr, aucun enfant ne peut être le thérapeute de ses parents, vous l'avez très bien dit, on ne peut pas sauver l'autre, on peut déjà se sauver soi, parfois, et il le paye.
Et ça a
il le paye terriblement.
Ça a été vous, cet enfant thérapeute?
J'ai été l'enfant thérapeute, ouais, de ma mère. J'ai essayé de la sauver. Je ne pouvais pas être la bonne écoute, pas la bonne parole qu'elle attendait. Et je l'ai payé. Et là où je ressens très très fort ce que vous avez dit en introduction, c'est qu'un enfant thérapeute attendra toujours de la génération d'après qu'elle vienne réparer ce que lui-même a subi.
C'est un livre intense, costaud, douloureux. Parfois, on n'en sort pas totalement indemne. Et en même temps, il ouvre beaucoup de questionnements. Et ça, c'est du vivant. Des questionnements sur la complexité infinie des liens mère-enfant. Surtout quand l'amour est empêché, quand il est entravé par une histoire beaucoup trop lourde à porter pour quiconque, à moins d'écrire. C'est ça, l'écriture, la parole, c'est l'issue. C'est pour ça que vous l'avez écrit?
C'est la reconquête. C'est la reconquête, c'est la tentative de me constituer un savoir là où il y a des inconnus qui me brûlent, qui me dévastent. Et puis, c'est aussi un passage que j'ai emprunté pour moi, dans cette relation avec ma mère, vers ma propre histoire, et que j'ai souhaité rendre accessible aux lecteurs, que d'autres puissent, à leur tour, peut-être retrouver ceux qui ont perdu, ceux qui ont été perdus, se sauver eux-mêmes, à défaut de pouvoir sauver l'autre. C'est une main tendue pour moi, cet ouvrage.
Et c'est l'idée d'une paix possible, d'une réconciliation possible ?
Absolument.
C'est ça ?
Absolument.
À défaut
absolument.
D'amour, à défaut de pouvoir effacer
absolument.
Le passé, de pouvoir se réconcilier.
Pour pouvoir se réconcilier, il faut pouvoir se concilier, il faut pouvoir se parler, il faut pouvoir dévisager le passé. Et ce livre, je crois, c'est une invitation à la rencontre. Vous pouvez rencontrer ce qui vous fait peur, vous pouvez ne pas vous angoisser devant l'angoisse. En tout cas, c'est ce que j'espère. J'espère vraiment qu'au terme de cet enfer que j'ai sorti de moi, que j'ai extirpé de mes tripes, parce que c'est vraiment ça, ce livre, j'espère qu'il y a quand même de la beauté.
Il y en a, il y en a. Est-ce qu'il vous a libéré, ce livre ? Est-ce qu'il vous a transformé, réconcilié avec vous-même ? Vous nous le direz ce soir, mais déjà, Samuel Doc, prenez ce miroir, prenez le temps, surtout, de vous y regarder, vous avez tout votre temps. Qu'est-ce que vous diriez de vous, pour donner un peu de qui vous êtes à celles et ceux qui nous écoutent ?
Alors je remarque mes yeux, je sais que ce sont les yeux de ma mère.
C'est
la chose que je préfère chez moi parce que ils sont clairs et j'ai envie qu'ils soient clairs et j'ai envie d'être clair moi-même, d'être face à moi-même. Malheureusement, je vois aussi mon nez trop gros qui prend trop de place, la place du père, je le sais depuis longtemps. Et ça fait de ce visage que j'ai face à moi le lieu du combat. Mon père m'a longtemps répété que j'étais moche.
Ah bon ?
Enfant, j'ai beaucoup eu droit à cela. Mais Samuel, tu es moche. Mais Samuel, tu cherches l'attention. Mais Samuel, tu n'as pas des traits très délicats. Et il m'a fallu beaucoup de temps et le concours de la psychanalyse, pour le coup, pour me constituer une image de moi-même valorisée et que je puisse apprécier aussi. Même si c'est vrai que j'ai cette tête un peu singulière, mais on est tous singuliers après tout. C'est ma tronche.
Moi,
j'essaie de la faire mienne,
genre.
J'essaie de la faire... Voilà. Donc, cet autre qui est moi, j'essaie de m'y faire.
Tout est toujours une question de regard sur les choses en soi. Je ne suis pas sûre qu'elles existent, en fait, les choses en elles-mêmes et... par elle-même. Tête à tête dans ce studio 561 de la Maison de la Radio. La Marge, vous la connaissez bien. Samuel Doc, vous l'écoutez, vous la soignez, vous l'écrivez. Psychanalyste, écrivain, vous publiez L'Enfant Thérapeute. Et L'Enfant Thérapeute, c'est vous.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
Vous êtes né très exactement le 25 juillet 1985 à Lille, juste avant de filer en Alsace où vous grandissez. La maison sent bon le lilas et les jonquilles. L'enfance a le goût du raisin et du chocolat chaud. Autour de vous, des oiseaux, des poissons, des chiens et la chatte, Vita. On aime bien les animaux chez vous. Dans les couloirs résonnent les disputes de vos parents, alors vous plongez dans vos livres, vous vous évadez et si ça crie plus fort, vous montez le son encore.
D'Allemagne, où j'écoute la pluie en vacances. D'Allemagne, où j'entends le roc en silence. D'Allemagne, où j'ai des souvenirs d'en face. Où j'ai des souvenirs d'enfance. Leninplatz et Anatole France. D'Allemagne, l'histoire passée est une injure.
Quand même, hein, Samuel Doc, Patricia Cass, Allemagne, mon Dieu, mais quelle est triste cette chanson et quelle est lourde de l'histoire qu'elle raconte. Vous étiez comme ça, petit garçon ? Vous étiez un petit garçon triste ?
Pas du tout. C'est ça qui est très paradoxal, c'est que je crois que j'ai toujours été attiré vers une certaine forme de mélancolie culturelle, un vertige, et pourtant j'étais plein de vie. Mais peut-être que c'est là une fiction que je me raconte, et peut-être qu'en réalité il y avait déjà beaucoup de douleur à cette époque-là, puisque... Vous dites que je suis en marge, et c'est vrai que c'est pour ça que je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous sur ce plateau. C'est que j'étais déjà en marge, j'étais déjà différent.
Oui, parce qu'on a beaucoup d'invités quand on leur dit, mais voilà, racontez-nous un son, une chanson qui vous raconte l'enfance. Bon, on est sur La Panthère Rose, on est sur Les Cités d'Or, etc. Votre choix de Patricia Cass m'a beaucoup surprise, parce qu'il y a une noirceur là-dedans. Alors, pour replanter un peu le décor ensemble, autour de vous, je dirais qu'il y a Salomé, votre cadette de 3 ans, et on en parlera. Votre mère... Évidemment, Béatrice qui a toujours mal au dos, Béatrice dont le corps se débine, chez qui rien ne fonctionne correctement, dites-vous. Mais Béatrice qui donne le change, beaucoup. Aux yeux de l'extérieur, quelle femme est-elle ?
Une femme généreuse, une femme impliquée dans la vie du village, auprès de ses amis, une femme qui donne beaucoup, mais une femme aussi très secrète, qui ne parle pas de son histoire, qui ne parle pas de ses blessures, qui ne parle pas des violences qu'elle subit de la part de mon père, des humiliations, de son contrôle absolument omniprésent et constant sur la moindre de ses dépenses, sur la moindre de ses sorties. Elle ne parle pas, elle nous protège et elle conjure des fantômes du passé dont j'ignore tout à ce moment-là. Si ce n'est, et ça j'ai compris, c'est que le passé vit à travers nous, il vit dans notre chair, et peut-être aussi qu'à travers cette chanson, ce passé, les injures du passé, déjà quelque chose venait à être senti chez moi. Je pense que j'étais vivant, enfant, mais j'avais aussi beaucoup d'intuition. Je sentais bien qu'il se passait des choses, que cette maison qui sentait, comme vous l'avez dit très joliment, le lilas, le jasmin, était hantée par des fantômes que je percevais sans les comprendre, par les non-dits.
Alors elle est créative, elle est charismatique, aimante, elle bosse comme une folle pour faire tenir la baraque. Vous ne manquiez de rien, assistante veto, vendeuse, animatrice de soirée, bibliothécaire, pour que vous ayez des livres dans le dos de votre père. Même ça, vous n'aviez pas le droit ?
Il était vraiment, vraiment dans le contrôle. C'est quelqu'un que mon père était et toujours un robot. Et les robots, ça n'a pas d'émotion, ça n'a pas d'empathie. Ça considère l'autre comme des variables, comme des données objectives, sans chair, sans peau, sans âme. Et c'est avec ça qu'elle a dû composer. J'imagine qu'elle y a trouvé une forme de cadre. Vous savez, parfois, on trouve dans certaines ténèbres d'étranges recoins où on a envie de s'abîmer un petit peu. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est parce qu'elle n'avait connu que cela avant lui. Mais non, malheureusement, c'est ce qui s'est joué.
On est sur des violences physiques, psychologiques, la totale, sur votre mère exclusivement ou sur vous aussi ?
Il était extrêmement violent. Il était extrêmement violent. Je me rappelle parfaitement de la peur que j'avais de lui. La peur assez constante de lui. Et puis, par-delà la peur, l'impossibilité de tisser du lien avec lui. Vraiment, je le revois quand je retrace la figure de mon père, je l'imagine assis sur le canapé en train de regarder la télévision. Je n'ai strictement aucun autre souvenir que cette image figée, cette image un peu morte. Et surtout ce regard, vous parliez du regard tout à l'heure, du regard qui se tourne vers un écran, mais pas vers sa famille qui avait besoin de lui. Et moi, j'ai dû apprendre à faire sans. J'ai dû apprendre à faire sans père. Peut-être qu'on est à la marge quand on n'a pas de père. Et moi, j'en ai pas eu.
Il était chef d'entreprise pour le monde autour. Comme souvent, c'est un homme merveilleux, si drôle, si droit, si costaud. Vous grandissez à l'ombre de cet homme-là, avec ce référent masculin-là, en tête. Adolescent, quels sont vos rapports avec les garçons, avec les filles, avec le désir ?
C'était compliqué parce que mon adolescence à moi, je l'ai nommé l'état fantôme, mes parents s'étaient séparés, se sont séparés quand j'avais 14 ans. Et l'adolescence, c'était cet état où chaque jour ressemblait à tous les autres jours. Mon père avait fui ses responsabilités, il s'occupait pas du tout de nous, il s'est vraiment emparé de cette occasion-là. Et je vivais de manière extrêmement recluse, extrêmement prostrée, enfermée.
Donc il n'y a pas de place pour l'amour, pour le désir,
très
rien.
Très peu. Et sinon une sorte de vie pulsionnelle étrange qui a surgi un peu plus tard, où ma mère nous emmenait dans des bars gays, dans des boîtes gays. C'était assez improbable. Il y a eu comme ça une espèce de faux réenchantement. Peut-être parce qu'elle a toujours compté sur des hommes pour la sauver, et qu'elle comptait peut-être aussi sur des hommes pour nous sauver, ma sœur et moi. Donc peu d'autres, mais vraiment une vie enfermée, qui pendant longtemps m'a fait craindre justement l'enfermement. J'étais, par exemple, quand il y a eu les confinements, j'étais très anxieux d'aborder cette période-là. Une vie d'enfermement, un jour froid. Je me rappelle vraiment, par exemple, de prendre une douche, d'être adolescent, de prendre une douche et de ne pas sentir l'eau chaude. Et il faut que je mette l'eau chaude, presque brûlante, que je sente ma paume brûler, comme pour me rappeler que je suis vivant. Que même si ma mère est plongée dans sa mélancolie, qu'elle n'en sort pas parce que mon père est parti, parce qu'elle s'abîme en elle-même, ben je suis vivant et je vais survivre à quelque chose. Donc vous voyez, mon adolescence, j'avais pas comme les autres la possibilité de sortir, de faire du sport, des sorties, parce que j'essayais déjà de survivre à l'enfermement, à l'absence de moyens, à l'absence d'argent, et c'était très dur.
Alors, faute de lumière, il y a quand même parfois quelques petites loupiottes sur votre route, comme ce tout premier amoureux que vous embrassez à 14 ans dans le plus grand secret. Vous vous racontez cette folle vie que vous vivrez un jour plus tard, si seulement vous pouviez. Vous imaginez, Samuel, et vous écrivez. Vous aimez écrire, vous aimez rêver. Au mur de votre chambre, des posters de Jurassic Park, vous serez paléontologue, déjà fouillé, déjà creusé, déjà descendre au fond de nos grottes. En attendant, en boucle, vous écoutez Zazie avec votre sœur Salomé. Vous chantez, vous dansez, vous oubliez.
Combien de mots dans la phrase ? On se jette à la figure. Combien de fleurs dans le vase ? Pour refermer la blessure. Combien de combats de trop ? Et d'égo à la démesure. Nous sommes deux beaux idiots. Car chaque
Alors, pour la petite histoire, La vie fait parfois bien les choses parce que des années après, vous écrirez pour Zazie.
Exactement, exactement. J'ai beaucoup d'émotions en écoutant cette chanson puisque je nous revois tournoyer, tournoyant, ma sœur et moi, dans la maison de ma mère, donc, ou dans cet appartement où nous avions fini par émigrer, si je puis dire. On prend des balais, on sort du placard et on chante et on chante. Et cette chanson particulièrement, ouais. Ça fait mal et ça fait rien, alors qu'en réalité, ça fait mal et tout fait mal. Ma sœur, à cette époque, se dégrade beaucoup.
Elle va pas bien, ma sœur. Elle a des troubles du comportement alimentaire. Elle s'enfonce dans l'anorexie, c'est ça ?
Elle s'enfonce dans l'anorexie. Ma mère lui prescrit de manière sauvage de la morphine qu'elle avait, elle, pour son cœur. Parce qu'elle ne pouvait pas la confier à un psychiatre. Elle ne pouvait pas supporter d'abandonner son enfant comme elle-même avait été abandonnée, je pense. Et elle s'engloutissait tout entière dans cette relation dévorante avec ma sœur. Elle se dévorait l'une l'autre et moi j'existais plus. Moi j'étais un fantôme dans l'état fantôme, un spectre sans corps. J'habitais dans les interstices. C'était vraiment très très dur, Julia.
Vous assistez à leur naufrage à toutes les deux.
Oui.
Comment se comporte votre mère avec vous ? Vous avez une phrase très forte dans votre livre. Vous dites qu'en fait, en voyant votre père partir, vous espériez que la violence quitte. Le foyer
ouais.
aussi.
Ouais.
Le désespoir, il est d'autant plus profond qu'en fait, la violence n'a pas du tout quitté le foyer, elle a glissé sur votre mère.
Exactement. Exactement. Et en partant, en quittant ma mère, mon père a réveillé les plus vieilles blessures de ma mère, celles-là même qu'elle s'était jurée d'enterrer et de ne jamais reproduire. Et je croyais effectivement que ma mère reproduisait quelque chose. Je pense qu'on y reviendra. Mais ça ne s'est pas fait de la manière dont je pensais. Je pensais que ma mère reproduisait le fait qu'elle ait été la dernière d'une famille de 14, qu'elle avait été placée par ses parents à la DAS. Voilà ce que je croyais. Je croyais tout savoir, mais je savais rien. Alors qu'en réalité, ce qu'elle reproduisait, c'est qu'elle prenait soin de ma sœur de manière excessive, de manière pathologique, presque un Munchausen, on pourrait dire, parce qu'elle, personne n'avait pris soin d'elle quand elle était petite fille. Donc il y avait une répétition, mais pas celle que je pensais. Pas du
tout. Elle vous toise, je vous cite, hein, comme si vous étiez le plus infect des déchets. Et puis ensuite, elle va demander pardon. Et puis ça recommence. Il y a les gifles, la console de jeux vidéo par la fenêtre, les livres brûlés, les dîners qu'elle ne prépare plus, des hurlements, des disparitions toute la nuit.
Oui.
Et vous, malgré tout ça, vous la regardez, vous ne faites qu'une chose, c'est vous inquiéter pour elle et vouloir la sauver.
Oui, 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 je l'aimais, je l'aime. Et il y a cette idée quand même d'un immense sentiment de culpabilité. C'est-à-dire
Pourquoi je
culpabilisais de ne pas pouvoir la sauver parce que j'ignorais à cette époque que ce n'était pas mon rôle et que je ne pouvais pas le faire et qu'elle avait engrammé cela en moi. À l'intérieur de moi, j'avais cette flamme, je voulais lui venir en aide. Et sans arrêt, j'échouais. Et c'est pour ça que vous avez décrit des actes de maltraitance de ma mère. Sans arrêt, je m'excusais. Je savais même pas pourquoi je m'excusais, Julia. Mais je m'excusais inlassablement. Je revenais vers elle. Je disais pardon, pardon, maman. Je suis désolée, maman. Je ferai mieux la prochaine fois. Et je savais pas ce qu'elle attendait de moi. Je savais pas.
Vous serez sauvés par les mots, ceux des autres d'abord, que vous lisez, parmi eux les plus importants de tous. Crime et châtiment, posé sur votre table de chevet, vous lisez ce livre et le relisez encore. Pourquoi ? Quel effet est-ce qu'il vous fait celui-là ?
Parce que je crois que chez Dostoïevski, on trouve l'idée de rendre déjà représentable l'indicible. Vous voyez là, Raskolnikov, le personnage de Crime et Châtiment, qui a tué deux personnes et qui se retrouve pris justement avec une culpabilité immense, rongé par le remords. Dostoïevski rend accessible la vie psychique, l'intimité, sans mettre toutes ses tripes sur la table, avec beaucoup de distance. Et c'était ça dont j'avais besoin. J'avais besoin tout à coup d'une assise psychique, culturelle, où on pouvait se rendre compte que les monstres peuvent être dits, qu'on peut les enfermer dans le papier et qu'on peut constituer une connaissance autour de ces monstruosités. Et c'est ce que je me suis employé à faire pour m'en sortir. Écrire et lire, redonner un visage à tout ce que je comprenais pas. C'est-à-dire que là où ma mère avait été une mère très aimante quand j'étais enfant et tout à coup devenait une femme manipulatrice, froide, violente et immensément dépressive, je comprenais pas ce basculement, mais je me raccrochais à la littérature. La littérature, vous m'avez demandé tout à l'heure si l'enfant thérapeute m'a sauvé. En réalité, il m'a permis de concilier les étrangetés, me dire que il peut y avoir de la nuance, en fait, dans ce monde. Ma mère n'était, et c'est pour ça que vos mots me touchent profondément aujourd'hui, c'était ni une héroïne, ni une ogresse, elle était juste humaine. Et il a fallu tout ce chemin-là pour m'en rendre compte.
Et puis les mots, ce sont ceux que vous couchez sur vos copies de lycéens et puis bientôt d'étudiants, ceux que vous lisez alors dans les manuels de psychologie, parce que oui, une page s'est tournée, vous n'êtes plus au lycée. Votre mère, physiquement, vous allez la quitter. Oh, can't anybody see?
Never find our way. C'est terrible, hein.
Allez-y, vous pouvez parler, vous êtes chez vous. Alors justement, les micros restent ouverts pour que vous puissiez nous dire tout à fait ce que vous ressentez au moment où vous le ressentez.
Ah, ça fait beaucoup de souffrance, parce que cette chanson a cet éclat... Cet éclat bleu et gris qui a été mon départ de la maison. Ma mère devait me récupérer un jour après ma première année de fac sur un parking, je sais plus quand. Et je lui ai dit, mais maman, je t'attends depuis 2 heures, il fait vraiment froid, c'est difficile. Elle m'a envoyé une énorme claque dans la figure, ma tête a tapé la vitre. Et là, j'ai décidé de quitter la voiture et de plus m'excuser. Et je suis parti, je n'avais rien sur moi, j'avais juste mes affaires de classe, c'est tout, je raconte ça dans le livre. Aucun support. Je suis allé chez une vague relation, vous savez, un ex qu'on a vu 2-3 fois, mais bon, il m'a ouvert sa porte, heureusement, sinon j'aurais dormi dehors. Et je vous assure que j'aurais dormi dehors, je serais pas rentré. Et quelques jours plus tard, elle m'a supplié de revenir. Je suis revenu, mais en sachant que j'allais partir. Et j'ai cru que partir, ce serait me quitter l'état fantôme, mais évidemment, l'état fantôme m'a suivi, puisque l'état fantôme, c'est un état mental, c'est une blessure qui déchire les années, qui déchire ma famille maternelle depuis très longtemps. C'est le secret. Et j'ai pas pu me défaire comme ça. Et il y a des guerres à mener, dit Bess Gibbons dans cette chanson. Et je savais pas que les guerres allaient être si dures à mener pour moi.
Vous resterez à Dijon jusqu'à vos 25 ans. Comment est-ce que vous vivez cette période-là? C'est 19-25 ans, c'est 6 ans d'études. Il y a votre mère et votre sœur qui sont plus là, mais elles sont pas encore très loin. Il y a du soulagement peut-être au quotidien.
Il y a un énorme soulagement. On ne me tape pas, on ne me ment pas, et je commence déjà à refuser certaines contraintes. Des blessures autres surgissent et les réveillent toutes. Par exemple, un ami très cher que je m'étais fait en fac de psycho décède d'une overdose et je dois aller identifier le corps. Ça a été terriblement difficile, surtout qu'on avait mis 3 jours à le retrouver. Là, ça a été une des premières craquelures dans ma vie, un des premiers coups d'éclat. Donc il y a eu des blessures qui en ont bien sûr ravivé d'autres, mais grâce à la psycho, je savais qu'il existait des lieux où on pouvait trouver du sens et où on pouvait se redresser. Et c'est pour ça que ces années-là, ces années frontalières, ces années définitivement en marge, elles ont été une opportunité pour moi de me rendre compte que j'étais vivant. Je sentais que j'avais une destinée, que je ne ferais pas quelque chose que les autres font sans pouvoir le justifier, et puis après tout... Toute mon adolescence, ma mère avait répété à ma sœur que c'était elle l'artiste. Donc je pensais pas que je serais écrivain un jour. Je pensais pas que je rencontrerais le traducteur de Dostoevsky, Julia Kristeva, Zazie, Eliette Abécassis ou qui d'autre. Impossible. Je pensais même pas que j'allais survivre vraiment. Je savais pas ce qui m'attendait. Mais je voulais survivre.
Et votre mère et votre sœur sont pas très loin. Est-ce que vous les voyez à ce moment-là?
Non. Personne prend de mes nouvelles. Jamais.
Personne.
Non, j'existe pas du tout. Ma sœur continue de se dégrader, ça je l'ai appris, mais bien plus tard. Elle bascule dans la toxicomanie, puis dans des pathologies encore plus graves que cela. Ma mère est comme avec un fœtus venimeux accroché à elle et réciproquement. Chacun s'empoisonne, elle s'empoisonne l'une l'autre. Mais moi, j'existe pas. Tout le monde se fiche que j'ai eu le bac. Tout le monde se fiche que je suis major de promo. Je sais même pas comment j'ai fait d'ailleurs. En tout cas, j'avais une très très bonne scolarité dans les matières cliniques. J'étais fier de ça. J'avais réussi. Enfin, moi qui n'étais qu'un spectre, tout à coup, je me rendais compte que je pouvais aider les autres. C'était très chouette pour moi. J'étais heureux de ça. J'avais presque une place. Moi qui n'étais rien.
Dans le soin à l'autre.
Dans le soin à l'autre. Vraiment. Dans le soin à l'autre.
Ça vous poursuit par contre.
Ça me poursuit, et vous voyez, mon premier stage, je l'ai effectué dans une aide sociale à l'enfance. Il n'y a pas de hasard.
Rarement, en tout cas. Alors Dijon, ce ne sera pas suffisant, peut-être qu'il faut partir encore plus loin, mettre quelques centaines de kilomètres supplémentaires entre la violence et vous, gagner Paris, trouver l'amour et puis une forme de liberté, l'espace, le temps de vous retrouver. On va vous retrouver, oui, à Paris, psychologue, écrivain et amoureux. Bienvenue à vous qui nous rejoignez, vous êtes sur France Inter.
En marge. Sur France Inter.
Quasiment, mais je crois savoir que cette émotion-là est plus douce que les précédentes.
Oui, oui, beaucoup plus douce.
Angus et Julia Stone, For You, pourquoi on écoute celle-là?
C'est la chanson qui représente mon couple, et c'est la chanson que souhaiterait me dédier mon compagnon avec lequel je suis depuis 14 ans, qui a été ce point d'ancrage quand je suis arrivée à Paris.
Vous m'avez dit en préparant cette émission quelque chose d'extrêmement joli. Vous dites, il m'a appris à me voyager, c'est-à-dire à sortir de vous-même, à échapper à votre destinée.
Absolument, et aussi à m'autoriser la joie, parce que je savais pas que c'était possible. J'étais comme ces animaux trop attachés, trop longtemps, et quand on leur enlève le fer qu'ils ont au pied, ils croient qu'il y a toujours une barrière, une menotte, je ne sais quoi encore. Et il m'a dit, tu sais Samuel, tu as le droit d'être heureux, tu ne dois rien à personne, et même tu dois être heureux. Et on n'avait pas grand chose hein, quand je suis arrivé à Paris, ça a été dur.
Alors vous vous êtes rencontrés sur un site web, l'histoire devait durer une nuit, elle durera donc une vie, une conversation ininterrompue à partir du moment où vous le rejoignez pour un week-end à Paris. À quoi ressemble votre vie à tous les deux à ce moment-là?
On habite à l'arrière d'un salon de coiffure, de manière complètement clandestine, de manière complètement illégale, on n'a rien. Je pense que beaucoup de mes patients qui nous écoutent et mes lecteurs seraient très surpris de la précarité que j'ai connue à ce moment-là. On n'avait même pas de douche, on avait un évier, on vivait dans 7 mètres carrés. C'était très 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 difficile, hein, je pars de loin, hein, vraiment. Et pourtant, quelle joie! On manquait tout, mais on avait tout. J'avais lui, j'avais un monde, j'avais la chaleur, j'avais la confiance, j'avais Paris, tous ces visages, toutes ces possibilités, toutes ces œuvres d'art autour de moi. Moi, j'étais au RSA, hein, donc du coup, l'accès au musée était gratuit. Et j'y allais, moi qui avais été tellement privé de culture. Malgré les livres que ma mère me fournissait lorsque j'étais plus jeune, je voulais vivre et je découvrais une chance de vivre, alors que vraiment c'était difficile. On raclait les fonds de tiroir pour s'en sortir, c'était très 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 dur.
Vous êtes amoureux, la période est heureuse, vous obtenez votre diplôme de psychologue, vous entamez une psychanalyse, vous publiez votre premier roman, L'Apocalypse de Jonathan, et pourtant cette fois, vous coulez. Vous avez 29 ans.
Oui.
Ce qu'on entend là, c'est Morning Passages de Philip Glass. C'est sur la bande son de The Hours, le film.
Oui.
Je reprécise à tous ceux qui débarqueraient dans l'univers En Marge hein, que tous les sons que vous entendez sont nos invités qui les choisissent, on ne vous impose rien. Ça dit la mélancolie, voire plus, qui est la vôtre à l'époque?
Oui, oui, oui. J'avais réussi à trouver du travail dans un hôpital. Et je travaillais dans un centre de cardiologie pédiatrique. Il y a eu un petit garçon dont je m'occupais qui est décédé. Et puis un autre. Et ça a touché quelque chose de moi vraiment très profond. Je me suis véritablement effondré. Je ne me reconnaissais plus du tout dans la glace. Je n'arrivais pas à quitter mon canapé. Je pouvais même pas me laver les dents, faire la vaisselle. Le moindre plus petit geste du quotidien m'était devenu absolument insurmontable. Et en ayant choisi cette chanson, je me suis dit, vous savez, c'est tiré de ce livre, Les Heures, et le film The Hours, vous l'avez rappelé, où il est question de la mère.
Et de transmission, de génération.
Et en fait, je crois qu'à travers ce décès de cet enfant, j'étais déjà rattrapé quelque part par les fantômes de ma mère. Des fantômes, mais qui s'incarnent dans notre épiderme, qui nous brise. Une personne qui n'a jamais fait de dépression ne peut pas imaginer ce que c'est. Moi, j'ai eu besoin d'un traitement médicamenteux.
C'est comme ça que vous en êtes sorti?
J'en suis sorti grâce à la psychanalyse, grâce à la possibilité de constituer un langage là où il y avait rien, là où il y avait une béance. Et façonner une narration sur tout ce qui faisait mal. C'est comme ça que je m'en suis sorti et c'est comme ça aujourd'hui que je permets à d'autres de s'en sortir. Mais quelle épreuve, ça a duré 2 ans, ça a été très long et très dur.
À ce moment-là, où en sont vos relations avec votre mère?
Il n'y en a pas.
Il n'y a rien du tout.
Rien du tout, elle surgit tous les 3 ans dans ma vie pour me demander de venir à Noël. Et j'y vais, et il y a de la violence, et ça se passe mal, et il y a des mensonges, des humiliations, et pourtant j'y retourne parce que je suis comme un chien affamé d'amour. Et on répète le même scénario tragique à chaque fois.
Elle vous sollicite assez peu. Dès qu'elle le fait, vous répondez présent. Je vous cite, hein, « Je t'espère, même si je sais que tu me décevras. Je veux t'aider, même si je sais que tu me blesseras. » Vous envoyez de l'argent, quelques cadeaux pour les fêtes et Noël. Vous y allez de temps en temps dans le train qui vous mène jusqu'à elle. Vous sentez monter l'angoisse et à nouveau cette détestation de vous-même. Vous vous sentez minable, écrivez-vous. Mais minable de quoi? Pourquoi?
Parce que vous voyez, j'avais fait du chemin. J'avais réussi à me relever de bien des blessures et je croyais m'en être sorti. J'étais plein de colère. Et parfois, il m'arrive de l'être encore. C'est pas un idéal, mais j'arrivais à écrire, à porter une voix sur les violences policières, sur les violences faites aux femmes. J'arrivais à me mobiliser, j'arrivais à aider les autres, mais j'étais incapable de m'aider moi-même. C'est-à-dire que je voyais bien qu'elle allait me faire mal, je voyais bien qu'elle allait me promettre des choses, qu'elle ne respecterait pas ses promesses fondamentales, et pourtant j'y allais. J'étais affamé d'amour, et je savais pourtant que je ne trouverais que des miettes, que ma sœur me laisserait, qu'il n'y en aurait que pour ma sœur, et que ce serait très dur, et que ça raviverait les blessures d'enfance. Et ça, c'est un sentiment terrible. Et nos auditeurs, nos auditrices, je pense qu'ils doivent le sentir, c'est que c'est très dur quand on attend inlassablement un message qui ne vient pas. Oui. Un je t'aime, un je tiens à toi, je suis fier de toi.
Et puis il y a cet ultime Noël, celui qui ouvre votre livre, Salomé, que vous revoyez, c'est beaucoup dégradé. Elle vous dit, mais tu sais Samuel, tu as de la chance de ne pas être aimé par maman. Pour être aimé par maman, il faut être comme moi, il faut être très malade.
Oui.
Et puis votre mère qui est là, sur le pas de la porte, elle vous ouvre, elle a une trace de sang au coin de sa bouche, elle s'est installée avec un nouveau compagnon, mais pourtant, vous le voyez, rien n'a changé.
Sur la plage abandonnée,
coquillages et crustacés. Qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances.
Elle a son petit côté Brigitte Bardot, votre mère.
Ouh là là, oui, elle avait monté même un spectacle dans un village où on habitait, alors dans un restaurant où il y avait des séminaires d'entreprise. Alors elle, c'était des personnes âgées qui bossaient, mais elle les travestissait tous, elle leur faisait chanter Moulin Rouge et compagnie. Et Brigitte Bardot, qui est une chanson qu'elle adore chanter, donc je suis content que vous ayez pu la diffuser aujourd'hui, ça me fait plaisir.
Alors elle se raconte une nouvelle histoire d'amour à ce moment-là, avec des coquillages, des crustacés, le soleil de Saint-Tropez, sauf qu'une fois de plus, ça se passe mal avec cet homme. La suite, est-ce que vous pouvez nous la raconter? Comment elle le quitte, dans quelles conditions, dans quelles circonstances?
Moi, je suis parti très très blessé de ce Noël. Vous avez dit cette phrase de ma sœur qui me revient. C'est la dernière fois que j'ai vu ma sœur vivante. Et au moment où on enregistre cette émission, je ne l'ai toujours pas revue depuis cette époque-là. C'est trop difficile, trop douloureux, je me protège. Pour être aimé par maman, il faut être malade. Ben, moi, je n'étais pas malade. Ma sœur avait son corps pour exprimer sa douleur. Moi, j'ai eu le savoir. C'est deux manières d'écrire quelque chose. Mais bon, je suis parti en me jurant cette fois-ci qu'on ne m'y reprendrait plus. Effectivement, on ne m'y a pas repris, j'ai tenu bon, je n'ai plus été enfant-thérapeute à ce moment-là, j'ai arrêté d'essayer de voler à son secours, jusqu'à ce qu'elle me contacte, qu'elle m'appelle quelques années plus tard en me disant « Samuel, voilà, j'ai besoin de te parler ». Et j'ai dit « Mais quoi encore? On rejoue la même comédie, je vais encore avoir mal, et non, j'ai pas envie de te parler en fait, j'ai pas du tout envie, là je vis et je me sens bien, je veux pas ». Et en fait, cet homme avec qui elle était partie à Rochefort avait exercé des violences absolument terribles contre elle. Il lui avait cassé la clavicule, elle s'était retrouvée dans un foyer de SDF. Elle n'avait pas du tout voulu m'appeler à ce moment-là, ni qui que ce soit de ses autres enfants, puisqu'elle a eu aussi des enfants d'un précédent mariage. Et elle a démarré une psychothérapie à ce moment-là. Grâce à une assistante sociale, elle a pu trouver un thérapeute et un logement. Et elle m'a dit, j'ai posé quelques notes sur mon histoire. J'ai besoin aujourd'hui de te parler, que tu comprennes. Que tu comprennes qui je suis, que tu comprennes pourquoi je me suis comporté de cette manière-là. Et c'est là qu'a commencé effectivement la réconciliation dont on parlait tout à l'heure.
Elle vous envoie ses notes, vous les lisez, qu'est-ce que vous apprenez d'elle ?
J'apprends que le mal existe, mais que c'était pas ma mère, le mal. J'apprends qu'il y a des enfers absolument inouïs, et pourtant j'avais déjà travaillé dans la protection de l'enfance. J'apprends qu'elle a la dernière d'une famille de 14 enfants, je le savais déjà, mais je savais pas qu'elle avait été affamée, qu'elle avait été condamnée par mon grand-père à porter des sacs de charbon à l'âge de 4 ans ou aller chercher le poisson. Je savais pas qu'elle était couverte de mutilations sur tout le corps parce que sa sœur Chantal la mordait jusqu'au sang. Je savais pas qu'elle avait failli mourir, je savais pas qu'elle n'avait eu aucune possession, aucun soin médicaux. Je savais pas que pour survivre à l'abandon total, à la négligence totale, elle se cramponnait à 5 secondes par jour où sa mère lui tenait la main pour lui faire traverser la rue. C'est que 5 secondes. Mais si elle me tient la main, ma mère, c'est qu'elle m'aime, c'est qu'elle est là. Il y a ces 5 secondes, je vais pas devenir folle comme tous les autres. C'est comme ça que ma mère a survécu là où toutes ses frères et sœurs, ou presque, ont très très mal fini, ont tous été en hôpital, etc. Donc j'ai découvert cet enfer qui a été le sien, et j'ai découvert que mon état fantôme n'était que des cendres et que le brasier véritable était antérieur à ma naissance, c'était Saint-Quentin. Et là, j'ai choisi de ne pas changer les noms dans le livre, tout est vrai. J'ai choisi vraiment de ne pas anonymiser quoi que ce soit.
Vous écrivez « Je t'ai lu parce que je me cherchais, mais c'est toi que j'ai rencontré ». Qu'est-ce que vous avez compris finalement du lien qui vous unissait, elle et vous ?
Qu'elle avait fait vraiment du mieux qu'elle pouvait, que j'avais de la chance de l'avoir pour mère. Parce que oui, vraiment, il faut imaginer que quand un enfant vit des sévices aussi graves, mon grand-père a été reconnu coupable d'actes de barbarie, ce qui est très, très, très grave. Ils ont perdu l'autorité parentale, mes grands-parents. C'est très dur d'ailleurs pour moi d'être le petit-fils d'un monstre, alors que je suis un soignant et un auteur. C'est très, très dur. Mais j'ai appris que j'avais eu beaucoup de chance, qu'elle nous avait offert une enfance très dorée, très préservée, surtout au vu de la violence de mon père. Elle nous a donné tout ce qu'elle a pas eu, en fait. Et peut-être que je suis pas si enfant thérapeute que ça, Julia. Je vous le dis ce soir. Peut-être que, au final, peut-être que si je soigne les autres, c'est parce qu'elle m'a aimé assez quand j'étais petit pour pouvoir, à mon tour, aider les autres.
Après l'envoi de ces textes, après leur lecture, vous échangez longuement avec elle au téléphone et puis vous acceptez de la rencontrer. Vous écrivez « Il ne reste plus que toi, une personne complexe et singulière sur la grève, libérée de mes rêveries et de mes craintes, révélée par son histoire, juste toi, réelle, aussi puissante que vulnérable. » Comment se passent ces retrouvailles, cette fois-ci ?
Elle a l'air minuscule, elle a l'air toute petite au pied de l'histoire, face à tout ce que moi je dois digérer à ce moment-là, tous les événements terribles que je décris dans le livre, que je raconte, parce que c'est vrai que j'ai habité ces notes, je les ai transformées pour le livre et je me suis pelotonné. Mais je la découvre toute petite, vulnérable, immensément brisée, humaine, mais surtout prête à me parler, prête à reconnaître ses erreurs, ce qui est très rare. Mmh. Vous me le disiez en off de l'émission, et c'est vrai que c'est très rare quand un parent commet des maltraitances et qu'il les reconnaît.
Elle reconnaît. Elle dit, elle dit pas, voilà. Tu mens, tu exagères. Elle dit, c'est vrai.
Pas du tout, et je trouve qu'il n'y a rien de plus abject que de refuser refuser à quelqu'un son statut de victime, même si voilà, c'est un procédé complexe et long. Et j'aurais pas pu le supporter. Si elle avait nié tout ça, je pense que ça aurait cassé, j'aurais pas pu le supporter du tout.
Alors, il y a une autre découverte que vous faites, bien après, en marge, j'allais dire. 3 ans plus tard, le livre est publié. Une cousine vous appelle pour vous parler de votre père. Qu'est-ce qu'elle vous apprend, cette cousine?
Elle m'apprend d'abord que mes grands-parents ne se portent pas bien du tout, que mon grand-père paternel est très malade, mais elle m'apprend surtout que ma grand-mère paternelle a été extrêmement brutale à l'égard de mon père, qu'elle le fouettait avec un martinet quand ils étaient petits, son frère et lui, et que mon père coupait les lanières de cuir du martinet pour ne pas se faire taper. Donc vous voyez, mon père...
Donc ça veut dire qu'on est quand même sur deux... arbres généalogiques,
tout à fait,
avec une transmission de la violence de génération
exactement
en génération, et c'est vous qui l'avez stoppé.
Exactement. Exactement, et puis ça explique beaucoup de choses peut-être aussi par rapport à ce que mon père met à distance de lui. Mais vous savez, j'ai fait l'enfant thérapeute et ça a été une épreuve terrible, même si je reçois beaucoup d'amour de la part des lecteurs en retour, je l'entends, et même si bon, il y en a parfois aux dédicaces qui veulent me prendre dans les bras et me faire des câlins, et je ne suis pas une peluche. c'est vrai qu'il y a tellement, ils sont tellement ouais touchés que je le comprends. Par contre, je suis pas prêt du tout à faire ce même trajet envers mon père parce que il est trop intelligent pour ça en fait. Malgré cette froideur dont je parle, cette tendance à l'objectalisation, je vais réussir à le dire, je peux pas en fait. J'ai essayé de revenir vers lui, j'ai essayé de tendre des mains, ça n'a jamais fonctionné. Au bout d'un moment, quand on se cogne, on finit par arrêter et on sait aussi se sauver soi-même justement. Donc ce sera pas possible. Dans le livre, je raconte ça, hein, comment j'ai essayé de revenir vers lui. Il y a eu que de la violence.
Et puis un jour, il y a ce voyage en Irlande, Michael, votre mère et vous. Là, vous écrivez « La parole devient remède, le maléfice ne nous contamine plus. L'état fantôme se dissipe, enfin, de la cendre emportée par le vent. Je sais maintenant de quel passé j'aimerais t'aider à te relever. J'ai découvert les blessures dont j'ai toujours espéré te soulager, sans les connaître, ni les voir, ni même les éprouver. Je sais que je n'y parviendrai jamais, je ne suis que ton fils. Je ne suis pas là pour ça. Tu me parais... immense, immense à cet horizon que tu as rejoint, survivante, vivante. Au bout du chemin, pour la toute première fois depuis des années, je ne suis plus triste, je n'ai plus peur. Je suis heureux, tu sais. Heureux, enfin, pour la toute première fois depuis des années, je te prends dans mes bras. Allez faire un tour sur la page de l'émission sur radiofrance.com. Vous y trouverez la possibilité de nous podcaster vers l'infini et au-delà.
France Inter. En marge.
Et si on regarde avec vous, Samuel Doc, vers l'infini et l'au-delà, eh ben, on entend ça.
Her regrets collect like old friends. Here to relive your darkest moments. I can see no way, I can see no way. And all of the ghouls come out to play. And every demon wants his pound of flesh. But I'd like to keep some things to myself. I'd like to keep my issues drawn. It's always darkest before the dawn. And I've been a fool and I've been blind. I can never leave the past behind.
Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi émue sur une émission. Alors non, je préviens tous les précédents invités, je suis émue à chaque fois. À chaque fois, je ris, à chaque fois, je pleure. Là, disons que mes glandes lacrymales sont plus agitées que d'habitude. Mais c'est bien de pleurer, ça aussi, c'est de la vie. Voilà. Florence and the Machine pour le grand soir et pour l'éternité.
Ah oui, vraiment. Et surtout cette chanson où elle dit, voilà, j'aime garder mes problèmes pour moi, c'est ce que j'ai fait. Mais il faut savoir se secouer, parce qu'on peut pas danser quand on a le diable accroché à soi. Et le jour où je disparaîtrai, j'aimerais que mes amis, ceux qui m'aiment, soient pas tristes, mais qui se rappellent de ça, qu'il faut se secouer et que oui, il fera sombre, il fait sombre, il fait toujours un peu plus sombre avant l'aube, mais l'aube arrive quand même.
Quel rapport est-ce que vous entretenez avec votre propre mort ?
J'ai l'impression d'être assez à l'aise avec cette idée aujourd'hui. Je me sens extrêmement proche du bouddhisme et du shintoïsme, sans être forcément croyant, mais je crois que tout est arbre, que tout est rivière, que tout est cascade, et que quand je mourrai, mes atomes, je sais pas, rejoindront ce grand flux.
Alors certes, ce ne sera pas la conclusion. Tout se transforme.
Exactement. C'est pour ça que ça m'a troublé lorsque vous avez dit ça tout à l'heure. Je suis plutôt à l'aise, mais je chéris tout de même la vie. Je ne suis pas non plus dans cette tendance où finalement on est tellement à l'aise avec la mort qu'on imagine, enfin voilà.
Et qu'on la cultive un peu aussi, quoi.
J'en bafouille face à cette idée de la grande faucheuse qui viendra me prendre un jour, pas trop tôt, j'espère. J'en bafouille.
Avec vous, quel objet est-ce que vous emporteriez, Samuel Doc?
Alors j'ai réfléchi et peut-être que j'emporterai cette bague justement parce que je l'ai achetée avec la toute première pige que j'ai faite pour le magazine littéraire, un article que j'avais écrit sur Antigone et l'adolescence. Sarah Chiche, qui est une amie très proche, que j'aime d'amour et que je salue, m'avait mis dans cette aventure, m'avait demandé de lui écrire un texte. Donc ça a une valeur, parce qu'avec ce tout premier salaire d'auteur, j'ai acheté cette bague. Cette bague n'a coûté que 10 euros. Alors c'est une petite bague à 10 euros que j'ai achetée dans la ville.
Vous avez été payé 10 euros.
Non, j'étais payé un petit peu plus, mais sur cette première somme.
Sinon, j'allais vous dire, c'est un peu une arnaque, 10 euros pour un papier.
Pour une pige? Ah oui, il y aurait un souci. Il y aurait un gros souci.
On est d'accord.
Mais je l'ai acheté dans la ville de Kinosaki Onsen au Japon, le pays où il y a mon cœur, et mon âme aussi. Un lieu vraiment, vraiment magique pour moi, où je me suis baladé de source chaude en source chaude et où je me suis dit, si les esprits et si les dieux vivent vraiment, ils vivent là-bas. Donc vous voyez, quand je vois cette bague, je vois Sarah, mon amie adorée, je vois Michael qui était avec moi dans ce voyage au Japon.
J'ai cru que c'était une alliance.
Non, même pas. Bon, comme alliance, ce serait un petit peu.
Pourquoi une alliance à 10
euros ? On dirait un peu un décapsuleur, des fois, vous trouvez pas cette bague ? Non, c'est pas le meilleur choix. Mais en tout cas, je l'emporterai.
Michael, si tu nous entends, n'oublie la bague à 10 euros pour le mariage. une épitaphe, déjà choisie, une seule patrie, le voyage, disait Saint Augustin, éloge de la mobilité. Oui. Et puis une lettre de votre mère, sans doute, dans votre cœur, à vie, parce que oui, elle vous a écrit aussi, je la lis.
Oui.
J'ai toujours eu peur que tu sois triste, alors je n'ai rien dit. Et puis j'avais si peur que ta sœur devienne une oubliée, que c'est toi que j'ai parfois oubliée et délaissée. Je sais que tu ne l'entends pas, Samuel, mais je suis fière de toi, je suis fière d'être ta maman. Je t'aime pour toujours, mon fils. C'est toi, est-ce que tu le sais ? C'est toi ma survivance, c'est toi ma continuité. Alors c'est très beau, mais c'est très chargé d'être la continuité d'une mère. Au fond, qu'est-ce que vous gardez d'elle ? Vous avez ses yeux, vous avez une forme d'attrait pour la mélancolie. Quoi d'autre ?
J'aimerais garder sa générosité. Ce que j'aimerais le plus garder, c'est sa générosité. Le fait que, mine de rien, elle fasse quand même toujours passer les autres avant soi, même jusqu'à la névrose, malheureusement. J'aimerais garder sa générosité, j'aimerais garder sa créativité. Et le fait aussi que vous voyez qu'elle a envoyé valdinguer les normes du patriarcat, les normes du capitalisme, qu'elle envoie valdinguer les choses dans sa pensée, elle résiste, elle est indocile, elle s'oppose, elle se révolte tout de même. Elle a fini par se révolter. Quand on se révolte pas, c'est qu'on est mort, c'est qu'on n'est plus en marge. Et je crois qu'on n'est jamais autant vivant et aussi créatif que quand on gribouille dans la marge.
En quelque sorte, vous lui répondez, Samuel. Vous écrivez, tout ne peut pas être rattrapé, tout ne peut pas être guéri, tout ne peut pas être pardonné, mais il est possible de se parler, il est possible de vivre. Merci infiniment.
Merci à vous,
Samuel
du
Dogg.
Fond du cœur.
En marche, c'est terminé pour ce soir. L'enfant thérapeute est édité chez Plon. L'enfant thérapeute poursuit son chemin. Merci de l'avoir emprunté avec nous. Sous emprise, épisode 4 nous conduit au royaume de Dieu, ou plutôt de ceux qui prétendent le servir.